Les rideaux se lèvent. L'âme du poète va être jugée. Les yeux du public sont deux petits génies qui cherchent les flairs spirituels pour les offrir à ses pensées. Tout poème est un jardin. Heureux celui qui sait les cultiver et bienheureux celui qui coupe ses roses pour en nourrir son âme. Les lampes de l'imagination s'allument en recevant les baumes parfumés de l'émotion. Les rideaux se lèvent.
Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Théâtre des mots, l'émotion dans la poésie. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des baïonnettes, du froid, de la chair qui sera plus très fraîche, décrépie. Nous allons beaucoup naviguer dans les travées guerrières. Arriverons-nous à en sortir pour arriver jusqu'au printemps? Vous allez le voir à notre compagnie, celle d'Hugo, de Boris Vian, de Maupassant et d'autres encore. Mais pour commencer, un avant-goût de notre voyage avant d'accoster sur des plaines rudes, nous allons écouter Camille avec le morceau « Au port ».
Petite fille, tu bois de l'eau et tu es saoule. Là où tu te noies, tu as beau avoir pied, tu coules. Au port, au port. Et petite folle, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules. Du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture. Tu partiras en sucette, mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port, au port.
Il y a Dieu qui ronfle. Et petite fille, devant il y a les pyramides. Et petite fille, derrière le génie de la Bastille. Et petite fille, à ta droite l'arc de ronde.
Extrait des Châtiments à venir. Les Châtiments, c'est un texte de Victor Hugo. Victor Hugo, je vous en reparlerai plus tard, mais de manière un petit peu plus rigolote. On écoute Les Châtiments.
Il neigeait. On était vaincu par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. Là, Privert fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Les blessés s'abritaient dans le ventre des chevaux morts. Au seuil des bivouacs désolés, on voyait les clairons à leur poste gelé, restés debout, en selle et muets, blancs de givre, collant leur bouche en pierre aux trompettes de cuivre. Boulets, mitrailles, obus mêlés aux flocons blancs pleuvaient. Les grenadiers, surpris d'être tremblants, marchaient pensifs la glace à leurs moustaches grises. Il neigeait toujours. La froide bise sifflait. Sur le verglas, dans des lieux inconnus, on n'avait pas de pain et l'on allait pieds nus. Ce n'étaient plus des cœurs vivants, des gens de guerre. C'était un rêve errant dans la brume. Un mystère, une procession d'ombre sur le ciel noir. La solitude vaste, épouvantable à voir, partout apparaissait, muette vengeresse. Le ciel faisait sans bruit avec la neige épaisse, pour cette immense armée, un immense linceul. Et chacun se sentant mourir, on était seul. Sortira-t-on jamais de ce funeste empire? Deux ennemis, le Tsar, le Nord. Le Nord est pire. On jetait les canons pour brûler les affûts. Qui se couchait mourait. Groupes mornes et confus, ils fuyaient. Le désert dévorait le cortège. On pouvait, à des plis qui soulevaient la neige, voir que des régiments s'étaient endormis là. Ô chute d'Hannibal, lendemain d'Attila, fuyards, blessés, mourants, caissons, brancards, civières, on s'écrasait au pont pour passer les rivières, on s'endormait 10 000, on se réveillait 100. Nay, que suivait naguère une armée, à présent s'évadait, disputant sa montre à 3 cosaques, toutes les nuits qui vivent, alerte, assaut, attaque, ces fantômes prenaient leurs fusils, et sur eux, ils voyaient se ruer, effrayants, ténébreux, avec des cris pareils aux voix des vautours chauves, d'horribles escadrons, tourbillons d'hommes fauves, toute une armée ainsi, dans la nuit, se perdait. L'empereur était là, debout. Qui regardait. Il était comme un arbre en proie à la cognée. Sur ce géant, grandeur jusqu'alors épargnée, le malheur, bûcheron sinistre, était monté. Et lui, chêne vivant par la hache insultée, tressaillant sous le spectre aux lugubres revanches, il regardait tomber autour de lui ses branches. Chefs, soldats, tous mouraient. Chacun avait son tour, tandis qu'environnant sa tente avec amour, voyant son ombre aller et venir sur la toile, ceux qui restaient, croyant toujours à son étoile, accusaient le destin de lèse majesté, lui se sentit soudain dans l'âme, épouvanté. Stupéfait du désastre et ne sachant que croire, l'empereur se tourna vers Dieu. L'homme de gloire trembla. Napoléon comprit qu'il expiait quelque chose, peut-être, et livide, inquiet, devant ses légions sur la neige semée. Est-ce le châtiment, dit-il, Dieu des armées? Alors il s'entendit appeler par son nom, et quelqu'un qui parlait dans l'ombre lui dit, non.
Il est parti mourir, la tête dans le vent, comme on part un sourire entre les dents. Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. les honneurs à la noix. Et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du saint inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du saint inconnu.
Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai faite inverser, des landaux à toute heure. Y a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu.
Une guerre à donner, la vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps.
Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu.
Des honneurs à la noix, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise.
Mezzogiorno sbalordito. Si affrettano le scarpe, un motorino, una portiera sbatte. Due voci fisse parlano. Di che? Midi abasourdi, se hâte les chaussures. Une mobilette, une portière claque. Deux voix arrêtées parlent. De quoi? Patrizia Cavalli.
La chanson la plus connue de Boris Vian, c'est certainement Le Déserteur. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Cette chanson a été complètement interdite. Et puis finalement, la censure l'a acceptée à condition que l'on change certaines choses. Je vais dire donc le poème de Boris Vian dans la version originale. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père. J'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. On m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte au nez des amours mortes. J'irai par les chemins, je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, monsieur le Président. Vous êtes bon apôtre. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer.
C'était Jean-Louis Trintignant, le poème de Boris Vian, Le Déserteur. Juste avant, nous avions écouté Les Fées Moustées, la chanson Le Soldat Inconnu, et tout ceci était entrecoupé du poème de Patricia Cavalli, que nous allons retrouver maintenant pour un autre petit poème, et aussi plusieurs fois dans ce début d'émission. Elle est une fidèle, nous l'avions vue en novembre, entendue plutôt en novembre et en décembre déjà. Nous retrouverons aussi un petit peu plus tard Svetlana Zviamborska, mais que pour un poème cette fois-ci. Donc nous retrouvons Patricia Cavalli.
I marocchini con i tappetti sembrano santi e invece sono mercati.
Les marocains avec leurs tapis, on dirait des saints. Et pourtant, ce sont des marchands. Guy de Maupassant, qui est très connu pour ses nouvelles, ses adaptations cinématographiques, a aussi écrit un texte en rapport avec notre thème guerrier d'aujourd'hui. Rien ne me donne l'idée du labeur humain, du labeur minutieux et formidable, de cette petite bête aux mains ingénieuses comme ces énormes citadelles de fer qui flottent et marchent, portent une armée de soldats, un arsenal d'armes monstrueuses, et qui sont faites, ces masses, de petits morceaux ajustés, soudés, forgés, boulonnés, travail de fourmis et de géants, qui montrent en même temps tout le génie et toute l'impuissance et toute l'irrémédiable barbarie de cette race, si active et si faible, qui use ses efforts à créer des engins pour se détruire elle-même. Ainsi, se réunir en troupeau de 400 000 hommes, marcher jour et nuit sans repos, ne penser à rien, ni rien étudier, ni rien apprendre, ni rien lire, n'être utile à personne, pourrir de saleté, coucher dans la fange, vivre comme les brutes dans un hébétement continu, piller les villes, brûler les visages, briller, ruiner les peuples, puis rencontrer une autre agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de chair pilées, mêlées à la terre boueuse et rougie, des monceaux de cadavres, avoir les bras ou les jambes emportés, la cervelle écrabouillée sans profit pour personne, et crever au coin d'un champ, tandis que vos vieux parents, votre femme et vos enfants meurent de faim. Voilà ce qu'on appelle ne pas tomber dans le plus hideux matérialisme. Nous avons vu tuer des chiens enchaînés à la porte de leur maître pour essayer des revolvers neufs. Nous avons vu mitrailler par plaisir des vaches couchées dans un champ, sans aucune raison, pour tirer des coups de fusil, histoire de rire. Qu'ont-ils inventé les hommes de guerre ? Rien, des canons et des fusils. Voilà tout. L'inventeur de la brouette n'a-t-il pas plus fait pour l'homme, par cette simple et pratique idée d'ajuster une roue à deux bâtons ? C'était donc Guy de Maupassant, un texte sur la guerre, vous l'aurez compris. Nous avons maintenant le texte de Svetlana Zviamborska, comme je vous le disais, poète polonaise. Ce texte qui est un tout petit peu caché derrière mes feuilles. C'est un texte qui est toujours traduit du polonais. Et je vous le livre, The Hand of the Beginning. Donc bilingue, traduit du polonais en anglais et bilingue français anglais. Parce qu'en polonais, on n'a pas encore le lecteur qui est arrivé. On a une chaise vide encore. Ça ne saurait tarder. Vous êtes prêts pour ce texte encore sur la guerre. After every war, someone has to tidy up. Things won't pick themselves up after all. Après chaque guerre, quelqu'un doit ranger. Les choses ne se ramasseront pas d'elles-mêmes après la déroute. Quelqu'un doit pousser les décombres au bord de la route pour que la carriole charge les corps et puisse passer. Someone has to trudge through sludge and ashes, through the sofa springs, shards of glass, the bloody rags. Quelqu'un doit se mouvoir à travers la boue et les cendres, à travers les ressorts de canapé, les éclats de verre, les lambeaux de chair. Someone has to lug the post, to prop the wall. Someone has to glaze the window, set the door in its frame. Glisser la porte dans ses gonds. Plus de bruit, plus de clichés. Et cela prend des années. Toutes les caméras ont fui vers d'autres conflits. Quelqu'un, la manche à balai à la main, se rappelle encore comment c'était. Quelqu'un d'autre écoute, balançant sa tête, non encore comme au chionné. Mais d'autres vont être bruyants alentour. qui trouveront tout cela un peu ennuyeux. From time to time, someone still must dig up a rusted argument from underneath a bush and haul it off to the dump. Ceux qui savaient ce que tout cela signifiait doivent tracer la route pour ceux qui en savent peu, et encore moins que cela, et finalement rien moins que rien. Quelqu'un doit s'allonger ici, sur l'herbe, qui recouvre les causes et les conséquences. Avec un épi de blé coincé entre les dents, réveillant en regardant vers les nuages. Someone has to lie there in the grass that covers up the causes and effects. With a cornstalk in his teeth, cooking at clouds.
Ramasser dans la boue et la gadoue, cracher, vomir, rejeter. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Déchet, rebut, ordure, comme le diamant, la flamme et le bleu de ciel, pas pur. Pas vierge, mais baiser dans tous les coins, baiser, enfiler, sucer, enculer, violer. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître, baiseuse et violatrice, pas pucelle, rien de plus sale qu'un pucelage. Ouf, ça y est, on en sort. Bonne terre boueuse où je mets le pied. Je suis pour le vent, le grand vent et la mer. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. Ça craque, ça pète, ça chante, ça ronfle. Grand vent, tempête, cœur du monde. Il n'y a plus de sale temps. J'aime tous les temps, j'aime le temps. J'aime le grand vent. Le grand vent, la pluie, les cris, la neige, le soleil, le feu et tout ce qui est de la terre boueuse ou sèche. Et que ça croule et que ça pourrisse. Pourrissez, vieille chair, vieux os, par le travers de la gueule, et que ça casse les dents et que ça fasse saigner les gencives. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître. L'eau coule avec son absurde chant de colibri, de rossignol et d'alcool brûlant dans une casserole. Coule le long de mon corps, un champignon pourri au coin de la forêt ténébreuse dans laquelle s'égare et patauge pieds nus une femme du tonnerre de Dieu. Ça pourrit dur au pied des chaînes. Une médaille d'or n'y résiste pas. C'est mou, c'est profond, ça cède. Ça pourrit dur au pied des chaînes. Enfin, le voilà qui sort de sa bouche. L'écorché sanglant qui chante avec sa gorge à vif. Pas d'ombre au bout de ses doigts. Orphée qu'on l'appelle. Baiseur à froid, confident des sibylles, Bacchus châtré, délirant, et tandis que le fleuve coule, roule et saoule, de grotesques épaves de péniche doux, coule du charbon, gagne la plaine et gagne la mer, écume roule et suse. muse sur le sable, le sel et le corail. J'entrerai dans tes vagues à la suite du fleuve épuisé. Gare à tes flottes, gare à tes coraux, à ton sable, à ton sel, à tes festins. Sortis des murailles, amour de passe, par le travers des gueules, par le travers des dents. Beau temps pour les hommes dignes de ce nom. Beau temps pour les fleuves et les arbres. Beau temps pour la mer. Reste l'écume et la boue et la joie de vivre. Et une main dans la mienne et la joie de vivre. Je suis le ver témoin du souffle de mon maître.
C'était un poème de Robert Desnos. Vous avez entendu mixer avec deux chansons de Véronique Sanson. J'espère que les fans de Véronique Sanson ne nous en voudront pas d'avoir mêlé les deux timbres de voix. Et on retrouvera Véronique Sanson pour se quitter en fin d'émission. Nous continuons avec une dame qui s'appelle Patricia Cavalli, en italien, toujours, avec un petit peu de français pour le sens.
Del suo silenzio io sono invidiosa e di come si appoggia a un davanzale lasciando alla luce i suoi miracoli. Sembrerebbe un ballerino smemorato se qualche volta non sorridesse, come a scusarsi di tanta bellezza. De son silence je suis envieuse et de comme il s'accoude à un appui de fenêtre livrant à la lumière ses miracles. On dirait un danseur distrait si quelquefois il ne souriait, comme pour s'excuser de tant de beauté. Patricia Cavalli.
Un autre poème qui va suivre, toujours extrait de son recueil « Mes poèmes ne changeront pas le monde » avec de jolis petits fruits et de jolis petits légumes dans des panières sur la couverture. Je ne me souviens plus du nom de l'éditeur.
Non era forse questo il mio mestiere, perdere tempo. Questo è il mio mestiere, e il bello è perdere quel che non si ha. Ho perso tempo e certo non l'avevo, ma io perdendo prendo, anzi ricevo, l'uso supremo, la mia immortalità. Altro non voglio infatti che essere immortale, qui in questa terra, essere immortale, sospesa in mezzo al tempo, non più mio.
Je ne veux rien d'autre, au vrai, qu'être immortel. Ici, sur cette terre, je veux être immortel, suspendu au cœur du temps, qui ne serait plus mien. Être dans mon être, exposé comme fini déjà. Animal renfermé et qui jamais ne renaît. En jouant sur les mots, je suis le commencement.
Essere nel mio essere, esposta e già finita, chiusa animale che certo non risorge, giocando alle parole, sono l'inizio. Patricia Cavalli.
Encore un dernier poème de Patricia, lu par Chloé, que je remercie.
Meglio morire leggeri, senza proprietà, che a essere proprietari si è già morti da ieri. Mieux vaut mourir léger, sans propriété, car lorsqu'on est propriétaire, ça fait un bail qu'on est mort.
Marilyn, Marilyn, quel est le film, le scénario qu'il te faut tourner de nouveau? Et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn? Avais-tu donc le cœur si las que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine? Oh Marilyn, Marilyn, le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor et le soleil californien. Non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait. Toi qui connais la fin du film, dis Marilyn, est-ce un baiser? Dis Marilyn, est-ce un baiser?
C'était Claude Nougaro. Nous allons vous lire un extrait de 11e poésie verticale par un poète argentin qui s'appelle Roberto Juarros, qui est disponible à la bibliothèque de Sainte-Afrique. Celui-ci, c'est un texte qui s'appelle Un zumbido de fondo. Un bourdonnement de fond témoigne de la présence des choses.
Un zumbido de fondo accusa la presencia de las cosas. Necesitamos la palabra y el viento para poder soportarlo. Un zumbido de fondo denuncia la ausencia de las cosas.
Un bourdonnement de fond dénonce l'absence des choses.
Necesitamos inventar otra memoria para no enloquecer.
Pour ne pas devenir fou.
Un zumbido de fondo subraya.
Souligne.
El frío de la muerte.
Du résumé, nous avons besoin de la somme de tous les amours, de tous les chants, pour pouvoir apaiser ce bourdonnement.
Necesitamos la suma de todos los cantos y el resumen de todos los amores para poder aplacar ese zumbido.
C'était Roberto Juarros, 11e poésie verticale que vous pouvez donc retrouver à la bibliothèque de Sainte-Afrique. Vous pouvez aussi trouver à la bibliothèque de Sainte-Afrique quelque chose sur Victor Hugo, qu'on a écouté au début, mais qui est complètement délire. C'est par l'auteur de bande dessinée de Petit Luc. Ça s'appelle La foire aux cochons. Et c'est très, très, très organique, gore et bestial. Mais c'est une métaphore complètement délirante sur la vie sexuelle et les mœurs assez libertines de Victor Hugo, qui se retrouve dans un espèce de paradis pour cochons avec Napoléon Bonaparte et en fait tous les dictateurs du XXe siècle. Ça, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un bon moment à passer, pas à mettre dans les mains des plus jeunes, bien sûr. Ça s'appelle La foire aux cochons et c'est la bibliothèque de Sainte-Afrique. Nous enchaînons par quelqu'un qui aimait bien aussi, mais tout en finesse, forcir le trait, c'est-à-dire Pierre Desproges, qui a fait un texte qui s'appelle L'aquafile. Et là, nous nous rapprochons du printemps. D'ailleurs, Desproges devait arriver avant le printemps, non après, pardon, mais finalement, il va arriver avant. Et ça s'appelle L'aquafile. Rien à voir avec le monsieur qui est en face de moi et qui m'envoie les sons et que je remercie, qui s'appelle Philippe, bien sûr. L'aquafile. J'étais littéralement fou de cette femme. Pour elle, l'étincelance amusée de ses yeux mouillés d'intelligence aiguë, pour sa voix cassée, lourde et basse de luxure assouvie, pour son cul furibond, pour sa culture, pour sa tendresse et pour ses mains. Je me sentais jouvenceau fulgurant, prêt à soulever d'impossibles rochers pour y tailler des cathédrales où j'entrerais beauté sur un irrésistible alezan fou, lui aussi. En sa présence, il n'était pas rare que je gaudriolasse, ainsi sans finesse, dans l'espoir flou, d'abriter sous mon nez rouge l'émoi profond d'être avec elle. Elle avait souvent la bonté d'en rire, exhibant soudain ses clinquantes canines dans un éclair blanc suraigu qui me mordait le cœur. J'en étais fou, vous dis-je. Ce 16 octobre, donc, je l'emmenais déjeuner, dans l'antre bordelais, d'un truculent saucier qui ne sert que 6 tables, au fond d'une impasse endormie du 15e où j'ai mes habitudes. Je nous revois dégustant de moelleux bolets noirs en célébrant l'automne romantique et grave, d'une gravité d'amant crépusculaire. Elle me regardait, pâle et sereine, comme cette enfant scandinave que j'avais entrevue penchée sur la tombe de Stravinsky par un matin froid de Venise. J'étais au bord de dire des choses à l'eau de rose, quand le sommelier est arrivé. J'ai commandé un Figeac 71, mon Saint-Émilion préféré, introuvable, sublime, rouge et doré comme peu de couchers de soleil, profond comme un La mineur de Verdi, un vin si grand que Dieu existe à sa seule vue. Elle a mis de l'eau dedans, je ne l'ai plus jamais aimé. Un extrait de Chronique de la haine ordinaire de Pierre Desproges. C'est le printemps, c'est le printemps. Je vous avais dit que nous retrouverons un poème, un poète qui s'appelle Cumming, qui joue beaucoup avec les mots et les phrases en anglais, qui tord les mots, qui utilise le I minuscule. Mais là, je vais vous lire que la traduction française, parce que en anglais, c'est quand même très difficile quand on voit pas le texte écrit. Ça s'appelle... Il n'y a pas de titre à ses poèmes, donc il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de titre, excusez-moi. Si je trouve le début... Ah oui, ça commence comme ça. Des fois, il met des parenthèses. Alors, à la radio, pour faire les parenthèses, ça va être difficile. Écoute. Ça, un chien aboie et... Les si follement maison. Yeux, gens sourire, visage rue, clocher dégringole. Passionnément, dans la merveille, œuse lumière du soleil. Regarde. Des individus... Remue, se contorsionne en s'ouvrant. Sont des feuilles, fleurs, rêves. Viens, vite, viens, cours, cours. Avec moi maintenant, saute, crie, ris, danse, pleure, chante. Car c'est le printemps, irrévocablement. Et dans les arbres, terre, ciel, partout, arrive un miracle. Oui, toi et moi ne pouvons le hâter avec un millier de poèmes. Ma chérie, mais personne ne pourra le stopper avec tous les policiers du monde. E.E. Cumming est un poème écrit par Gilles, donc par moi-même, que Chloé va nous lire.
Couloir éclairé de nuages qui dispose ses arbres à l'envi, le vent s'est chenu, il fourmille d'embrure, barbotant un printemps si tenu, qu'il se resserre frémissant. Dans le noir se parsème un chemin d'une odeur de génie.
Thank you.
C'était un morceau instrumental de Stéphane Escher. Vous pouvez retrouver des références sur notre site internet concernant les textes que vous avez entendus aujourd'hui et ceux des émissions précédentes. Une petite gâterie de Von Kovlart, un auteur de romans, donc j'ai attrapé un tout petit extrait. Chaque fois qu'il renonçait au whisky, Ellie recommençait à fumer. Son pneumologue s'arrachait les cheveux, finissait par lui envoyer une bouteille de Glenfiddich avec ses voeux de rétablissement, et tout rentrait dans le désordre. C'est le printemps qui arrive, et au printemps, il y a aussi des moments où le soleil se couche et où le soleil se lève. Et en Normandie, on appelle la jourie ce moment d'apaisement où la nuit dépose les armes pour devenir demain, dans une lumière d'aube, le couche-toir y croise le lève-tôt. Je disais donc le couche-tard y croise lève-tôt. C'était un extrait de Françoise Simon. Et on peut voir ça comme une illustration de l'herbe qui repousse après. Les charniers de notre émission qui a beaucoup parlé de guerre et Véronique Sanson qui a croisé la chienlit et le verre du souffle de son maître va nous fredonner son dame-dame pour les Michel. Je vous dis au revoir. Pour l'émission de juin, nous retrouverons Lola et Gaëtan qui nous liront des textes plus légers, enfin va savoir, en tout cas dans un contenu d'enfants d'une dizaine d'années. Je vous dis à bientôt. On se retrouve sur les ondes de Radio Sainte-Afrique.